profiter que les dernières personnes s'installent pour d'abord me présenter. Donc, je suis Jean-Dominique Polak, je suis professeur d'acoustique et directeur de l'Institut de formation doctorale à l'Université Pierre et Marie Curie. Et en plus de cela, je suis aussi membre du comité de pilotage du conseil de la formation doctorale à l'EUA. Donc on a parlé tout à l'heure de l'Europe. L'EUA, c'est l'association des universités européennes. Bien, je vais aussi commencer par une petite introduction sur la notion de compétence, puisque le titre de cette table ronde, c'est « De l'expérience doctorale aux compétences en entreprise ». Bon, la notion de compétence est vraiment aujourd'hui au centre de la réflexion en matière de formation et également au niveau européen sur le doctorat, qui est, je le rappelle, ça n'est pas suffisamment dit, mais c'est une formation à la recherche, par la recherche, c'est les textes européens. Donc, on les retrouve dans les principes de Salzbourg, qui ont été adoptés par l'EUA en 2005 et renouvelés, réaffirmés en 2010, et qui, on peut le dire, ont révolutionné l'approche du doctorat. Et aujourd'hui, l'Europe est en pointe sur ce qu'on appelle les principes de formation doctorale innovante, qui, eux, ont été pris, adoptés, comme nous le rappelait Monsieur Tison, ont été adoptés en 2011 par les ministres de l'Europe. Donc la question des compétences est aussi également au cœur de la discussion au sein du groupe de suivi du processus de Bologne, dont vous avez sûrement entendu parler, avec plusieurs référentiels de compétences. Donc nous avons vu ce matin celui de l'ABG, mais il en existe aussi, on en trouve sur internet, vous trouverez les référentiels de Budapest, de Dublin, vous avez Vité en Angleterre et d'autres. Mais donc, qu'est-ce que sont ces compétences? Et j'aimerais peut-être faire un petit point pour rappeler l'origine de la notion de compétence. Alors pour cela, je vais m'appuyer sur un petit livre que l'Association des docteurs de l'UPMC, donc on parlait de réseau tout à l'heure, donc l'Association des docteurs de l'UPMC est un réseau, mais vient de d'écrire un livre blanc sur les compétences des docteurs. Donc j'en ai un ou deux exemplaires, mais il est en réimpression. Et dans ce petit livre blanc, eh bien, l'origine de la notion de compétence est indiquée. Donc, la notion de compétence apparaît assez récemment. C'est né au sein des entreprises, à la sortie de la crise de 70. L'idée était d'améliorer la qualité des produits et des services en les diversifiant et les personnalisant, et d'améliorer la réactivité et la capacité d'innovation. En effet, cette capacité à s'adapter, réagir, innover face à des situations nouvelles et complexes devenait primordiale. Alors, si l'on regarde un petit peu tout ce qui existe sur la notion de compétence, on s'aperçoit qu'il faut faire la distinction entre la compétence au singulier et les compétences au pluriel. La compétence étant définie comme la capacité à gérer efficacement un ensemble de situations professionnelles et donc pouvant, pour cela, combiner ou mobiliser plusieurs compétences au pluriel ou ressources. Donc, si je résume un peu tout ça, appliqué au doctorat, qui est donc une véritable expérience professionnelle, comme le rappelait le président Dardel en introduction, la démarche compétence vise à améliorer l'employabilité des docteurs en insistant non pas sur leurs connaissances et savoirs, mais également sur leur savoir-faire et leur savoir-être, comme cela a été effectivement dit lors de la première table ronde. Donc l'objectif de cette deuxième table ronde, c'est de montrer que la démarche compétence est bien intégrée par les écoles doctorales et que les dispositifs mis en œuvre visent à les promouvoir auprès des entreprises, afin de sortir de l'image trop théorique de la formation doctorale. Donc je vais d'abord demander à tous les intervenants de présenter environ 5 minutes. J'ai dit 5 minutes, mais je sais que ça débordera. Donc leur réflexion et leur expérience sur les compétences des docteurs. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient d'illustrer par des exemples concrets. Puis après, nous passerons à une discussion de la salle. Donc je vais donner en premier la parole à Irina Vassileva, qui est donc docteur en sciences de l'information et de la communication, qui est ingénieure de recherche et qui est actuellement co-directeur de l'école doctorale ABS, donc agriculture, alimentation, biologie, environnement et santé, à l'AgroParisTech.
Merci beaucoup Jean-Dominique. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis très honorée d'avoir cette opportunité d'intervenir dans le cadre de ce colloque. Et effectivement, je vais rentrer immédiatement dans le vif du sujet en apportant des éléments de réponse à la question posée par l'animateur de cette table ronde. Concernant notamment l'intégration de la démarche compétences au sein de notre école doctorale, l'ABS, qui regroupe aujourd'hui près de 400 doctorants. Nous avons à peu près 90 soutenances par an. Le nombre de thèses sous contrat CIFRE augmente constamment et environ 40% de nos docteurs s'insèrent aujourd'hui dans le secteur privé en France et à l'international. Le maître mot qui caractérise donc l'école doctorale ABS, c'est la pluridisciplinarité. Je dirais tout d'abord que la démarche compétence est très bien intégrée au sein de l'école doctorale ABS, et ce depuis plusieurs années. Et un deuxième postulat, puisque j'interviens ici avec la double casquette directrice adjointe de l'école doctorale et aussi directrice adjointe des formations doctorales de l'établissement AgroParisTech. Donc les deux entités, AgroParisTech et ABS, mettent en place des initiatives très proactives pour favoriser l'ouverture vers le monde socio-professionnel. Donc, je pars de ces deux postulats que j'aimerais pouvoir illustrer avec quelques exemples pendant mon intervention qui va dérouler en abordant trois niveaux différents, trois échelles différentes. Donc, les exemples vont se situer à trois échelles différentes. La première, c'est l'échelle locale, celle de l'école doctorale. La deuxième, ce sera l'échelle institutionnelle, donc celle de l'établissement AgroParisTech. Et la troisième sera l'échelle supra-institutionnelle, si on peut l'appeler comme ça, qui représente donc les réseaux partenariaux auxquels participent ABS et AgroParisTech. Je vais donc commencer par... le niveau local, donc celui de l'école doctorale. La démarche ABS vise à compléter les apprentissages acquis au sein des équipes de recherche en favorisant le développement de certaines compétences transversales, dont il était question déjà tout à l'heure, qui sont strictement nécessaires et utiles pour une insertion professionnelle et réussie. Après le parcours doctoral qui, lui, est considéré comme un premier emploi. L'originalité de cette démarche est fondée sur la réflexion que le doctorant ou la doctorante va mener ensemble avec ses encadrants scientifiques, avec l'équipe de l'école doctorale et avec les membres de son comité de thèse aussi. Et de cette manière, donc on va identifier au niveau de chaque doctorant les compétences à développer ou à renforcer dès l'entrée en thèse. Donc cette démarche est menée dès l'entrée en thèse et tout au long des trois années qui vont suivre. Un outil est dédié à cette démarche autoréflexive, c'est le carnet de compétences. L'approche ainsi conçue permet aux doctorants de développer leur autonomie, d'une part, et d'autre part, de se comporter en acteur de leur propre projet personnel et professionnel. Les doctorants de l'école doctorale ABS sont aidés dans cette démarche par les contenus proposés dans le cadre de l'offre de formation de l'école doctorale, qui, elle, est basée sur les recommandations européennes, dont tu parlais tout à l'heure, sur une expérience confirmée de l'établissement AgroParisTech et de l'école doctorale ABS dans le cadre de différents projets européens, ainsi que sur l'analyse de plusieurs cabinets de conseil en recrutement des docteurs qui intègrent donc les besoins exprimés par les employeurs, aussi bien en France que dans le monde. D'un autre côté, la démarche de l'école doctorale, elle est orientée vers le développement d'une certaine mobilité. L'école doctorale, avec l'appui bien sûr de ses équipes de recherche, encourage l'acquisition d'une certaine adaptabilité, donc encore une compétence essentielle, notamment via la mobilité, qu'elle soit géographique, donc à l'international pendant la thèse, thématique, puisque les travaux aux interfaces des disciplines sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, ou sectoriel, entre donc le monde privé et le monde public. Par rapport à cette dernière, donc la mobilité sectorielle, on voit de plus en plus de projets de recherche qui sont co-développés et soutenus par le secteur privé. Et pour terminer avec cette partie concernant donc le plan local au niveau de l'école doctorale, je mentionnerai simplement ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure un petit peu, donc la composition des conseils des écoles doctorales, notamment celui de l'école doctorale ABS, qui comprend plusieurs membres titulaires issus du secteur privé et qui pour que leur présence dans cette instance puisse être vraiment bénéfique, joue un rôle particulier, donc un rôle leur est attribué, qui concerne notamment des actions de conseil et d'orientation par rapport au choix de carrière et par rapport au type de métier, etc., qui serait adapté à la formation proposée donc, dans le cadre de cette école doctorale notamment. Donc pour que ça puisse fonctionner et pour qu'ils aient un rôle actif au sein du conseil, il faut qu'ils aient vraiment un rôle bien identifié, sinon c'est compliqué. Donc maintenant la deuxième partie de mon intervention qui concerne le plan institutionnel, donc celui au niveau de l'établissement. Quelques exemples que j'aimerais mentionner. Tout d'abord, AgroParisTech, l'établissement, mène depuis plusieurs années une politique proactive et très volontariste de création de chaires d'enseignement et de recherche avec des entreprises et d'autres partenaires aussi. La création de ces chaires s'accompagne quasi systématiquement du financement de contrats doctoraux, d'une part, et d'autre part, d'un cadre de formation doctorale qui implique fortement les entreprises et qui implique aussi un temps qui est passé au sein de l'entreprise pour les doctorants. Aujourd'hui, sur cette chaire existante, nous avons une petite vingtaine de thèses qui sont en cours et qui sont soutenues. Donc par ces chaires, par rapport aux domaines thématiques prioritaires qui ont été identifiés en amont. Ces chaires d'enseignement et de recherche offrent également des missions complémentaires, donc des missions d'expertise, de valorisation de la recherche ou de médiation scientifique, qui permettent à certains doctorants de développer des compétences professionnelles particulières et d'acquérir une expérience très riche, et ce, pendant la thèse. Voilà, ça c'est un premier exemple. Ensuite, plus récemment, au sein de l'établissement AgroParisTech, un comité des partenariats a été mis en place, qui est coordonné par la direction des partenariats de l'établissement et qui est composé des représentants des départements de recherche et de formation et des différentes directions clés, telles que la direction scientifique de l'établissement, mais la direction des formations doctorales participe également de manière très active aux travaux et à la réflexion collective menée dans le cadre de ce comité qui joue un rôle consultatif au sein de l'établissement. En troisième lieu, un troisième exemple, c'est la création récente de la Fondation AgroParisTech, qui soutient aujourd'hui des thèses dans des domaines thématiques prioritaires pour les entreprises partenaires. Et enfin, une initiative annuelle. Donc, il s'agit du forum professionnel de l'établissement AgroParisTech qui est mis en place chaque mois de novembre et qui regroupe plus de 60 entreprises actives dans les domaines thématiques que couvre donc l'établissement. Ce forum professionnel, qui se nomme le forum Vitae, est organisé en particulier par les étudiants et par les doctorants de l'établissement. Et c'est un moment privilégié de rencontres et d'échanges avec le secteur privé, notamment. Plusieurs actions qui vont promouvoir en fait, le doctorat au sein du monde socio-professionnel sont mises en place chaque année par un groupe de doctorants qui développent ainsi un projet annuel. Donc, ils acquièrent des compétences en matière d'événementiel, etc. Donc, ce sont des compétences professionnelles. Ils travaillent avec nous. Ils sont aidés par la direction des formations doctorales et et la direction de l'école doctorale, et ils mettent en place une table ronde qui porte toujours sur les compétences des docteurs, qui intéressent les entreprises et qui réunit chaque année différents représentants des entreprises partenaires. Voilà. Il y a aussi d'autres actions qui sont mises en place dans le cadre du forum Vitae, comme des simulations d'entretien professionnel avec des représentants des entreprises. Donc, dédiés aux doctorants pour préparer leur avenir professionnel. Ce sont donc les exemples que je voulais citer sur le plan institutionnel. Et pour terminer cette intervention, je parlerai très brièvement de la troisième, le troisième niveau que je voulais évoquer. C'est le niveau des réseaux partenariaux et des alliances supra-institutionnelles et qui existent aussi au niveau de l'Europe. Hein. Il en était question tout à l'heure. Donc des initiatives qui sont développées dans ce cadre-là, auxquelles participent AgroParisTech et ABS et qui contribuent fortement au déploiement de la démarche compétence et au rapprochement avec le monde de l'entreprise. Ainsi, ce sont des programmes de formation ou des parcours spécialisés, spécifiques, tournés vers l'international ou vers l'entreprise ou vers l'entrepreneuriat et l'innovation dans ce sens-là, qui existent et qui sont mis en place dans le cadre de ces réseaux, de ces organismes partenaires de notre établissement. Et j'aimerais juste citer quelques exemples, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole. Historiquement, dans le cadre de ParisTech, donc le cercle docteurs et entreprises, et le parcours dédié donc à un avenir professionnel tourné vers l'entreprise qui ont été mis au point dans ce cadre-là. Dans le cadre d'Agrinium, c'est l'école internationale de recherche qui sera donc reprise comme initiative dans le cadre du nouvel établissement national IAVF. Tout à l'heure, on évoquait l'IIT sur le plan européen et les KIC. Donc, nous participons effectivement à la KIC Climat. Et là, il y a des thèses qui sont labellisées et qui, dont le parcours est tourné vers l'innovation et l'entrepreneuriat. Et pour terminer, j'aimerais quand même dire un mot sur donc l'initiative très importante qui se développe aujourd'hui au sein du collège doctoral de l'Université Paris-Saclay, dont nous faisons partie. Et c'est la mise en place très active d'un référentiel de compétences commun et d'une offre de formation cohérente ainsi que donc le développement de parcours innovants, des parcours de formation très orientés vers différents types de domaines d'activité qui ont donc pour objectif d'offrir aux doctorants la possibilité de renforcer leurs compétences et de créer des passerelles avec le secteur privé. Et je vous remercie de votre attention.
Bien. Merci Irina. Donc je vais rebondir sur sur le partenariat avec l'industrie, pour passer la parole à Aes Selikel, je dois massacrer son nom, j'ai oublié de lui demander comment le présenter, et qui est présidente et cofondatrice d'Envisa. Envisa, c'est une société de recherche et de conseil dans le domaine de l'environnement du transport aérien, et donc qui aide les fabricants, opérateurs, régulateurs, administrations, pour surmonter les défis environnementaux liés à la croissance du trafic aérien. Alors, je vais simplement rajouter une chose avant de donner la parole à Madame Selikel. Aïcha, qu'elle a peut-être l'un des plus grands parcours international de cette table ronde, puisqu'elle a fait des études à l'Université technique d'Istanbul avant de passer 2 ans, je crois, à l'Université technique du Danemark.
Merci. Alors, je suis Aïcha Selikel, présidente et cofondatrice d'Envisa. Aujourd'hui, je vais vous témoigner comment on a réussi à intégrer les doctorants dans un projet de recherche international et aussi dans le succès de notre entreprise. Alors, Envisa, c'est une PME francilienne qui a su trouver et développer des solutions innovantes pour réduire tout l'impact environnemental de l'aviation. Alors, avoir une aviation verte, ça, c'est notre ADN, c'est notre mission d'Envisa. Depuis plus de 10 ans, on a développé, on était intégré dans les projets internationaux ou dans les projets de recherche avec les grandes institutions européennes, avec les pionniers de l'aviation, pour vraiment trouver des innovations, des modèles, des outils en fait innovants pour aider ces acteurs, pour réduire et pour confronter toutes ces réglementations environnementales qui ont triplé depuis quelques années. Moi, je vais poser, comme M. Pollack m'a déjà présenté, et je viens d'apprendre qu'on était en même temps à Copenhague. Je vais vous dire, quand même, je suis aussi ingénieure environnementale et j'ai eu l'idée de créer une entreprise en France sur l'innovation, sur la recherche et développement. Alors, comme je disais, on a déjà travaillé avec les acteurs aéronautiques. Tous les acteurs, on peut dire aéronautiques, les grandes institutions européennes, les pionniers de l'aviation, mais aussi, et c'est pour ça aujourd'hui je suis là, c'est aussi avec les universités européennes, avec les instituts de recherche européens, ce qui nous a permis de faire cette partie de recherche et développer des compétences très techniques que l'aviation a besoin. Alors, nos activités de recherche, depuis quelques années, depuis plus de 10 ans, on était dans des projets type, on peut dire PCRD, des projets de recherche collaboratifs européens, où on a développé des outils et des compétences pointues dans l'aéronautique et dans le développement durable. On a aussi participé à des projets, on peut dire, français, franciliens, ce qui nous a permis de faire 2 points clés pour Envisa. La première chose, ce qu'on a besoin plus dans l'aviation, c'est des compétences très techniques et très pointues. Et la deuxième chose, c'est de développer des innovations, ce qui nous a permis le succès mondial aujourd'hui. Je dois quand même dire que je crois qu'aujourd'hui, ou dans ces 2 jours, on est le seul PME très petit, enfin on est une dizaine de personnes, qui a su développer ces compétences. Alors, notre point de ce jour, c'est comment en fait utiliser les doctorants. Bien évidemment, pour faire toutes ces innovations, pour tous ces projets de recherche, on a utilisé les doctorants. Comment on a fait? Par exemple, quand on a été sélectionné dans un projet de recherche européen, on a regardé ce qu'on a déjà, parce qu'on est une petite société, mais on a regardé les compétences qui manquaient dans ce projet spécifique. Bien évidemment, on a commencé, enfin, je suis aussi très contente ce matin, enfin, vous avez présenté comment chercher des doctorants plus facilement, parce que j'ai passé beaucoup de temps à regarder les CV pour essayer de trouver les compétences vraiment qui manquaient à chez Envisa. Alors, du coup, quand on trouve ces compétences, alors ce qu'on fait chez Envisa, c'est de faire passer ce doctorant à notre monde d'entreprise, en faisant des formations internes ou ça peut être des formations externes. Parce que, surtout dans l'aéronautique, par exemple, on a eu quelques doctorants sur la qualité de l'air, ils doivent aussi apprendre
comment appliquer ces compétences sur le secteur aéronautique, à côté des aéroports. Alors, bien évidemment, les compétences, ça peut aussi être gagné dans l'entreprise. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et après cette période d'adaptation et de formation, on a eu vraiment des succès avec les doctorants qui travaillent avec nous. Et alors, avant de finaliser mon intervention, je vais vous donner le dernier exemple qu'on fait. C'est un projet, toujours un projet collaboratif européen, Clean Sky. On cherche de développer des procédures vertes pour que les compagnies aériennes puissent faire des procédures beaucoup plus, on peut dire, vertes, mais aussi pour réduire les nuisances environnementales pour un aéroport. Aujourd'hui, la thèse réalisée, on fait avec l'Université Sergi-Pontoise. Je dois dire aussi que cette collaboration CIFRE est très, très, très importante pour nous parce qu'on a aussi eu des jeunes docteurs qui avaient un parcours, on peut dire, plus académique, qu'on a aussi intégré aussi, mais avec le CIFRE, le doctorant passe son temps dans l'entreprise, mais aussi, la grande chose, le double bénéfice, c'est qu'on collabore avec les laboratoires. Parce qu'imaginez qu'une petite société comme nous, on n'a pas les moyens de faire des laboratoires nous-mêmes. Du coup, ça nous aide de faire une synergie entre le doctorant, l'entreprise et le laboratoire public. Voilà, et ce projet européen, en fait, on va développer vraiment des procédures pour mesurer la nuisance sonore, physique, mais aussi perceptive. Et ça, c'est quelque chose de très innovant, parce qu'aujourd'hui, le bruit est mesuré seulement physiquement, mais pas sur le côté perception. Et je crois que cette partie va encore nous donner, développer encore plus de compétences dans l'entreprise et d'avoir des autres succès dans les projets européens. Voilà, je crois que tout ce que je peux dire, c'est ça, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Et j'espère que mon intervention, quand même, ça va contribuer à cette collaboration de projets de CIFRE, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous aide, même les petites PME. Voilà.
Merci, Aïché. De l'environnement, il n'y a qu'un pas à la géographie. Alors, je vais passer la parole à Yann Richard, qui est professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de l'UFR de géographie de l'Institut de géographie, directeur adjoint de l'UMR CNRS, et qui va donc nous parler de son travail au sein de l'école doctorale de géographie qui est commune à Paris 1, Paris 4 et Paris 7, je crois, et dont le directeur Olivier Sevin est d'ailleurs présent ici.
Merci. Alors, je vais parler évidemment des SHS et beaucoup de la géographie. Hein. Donc, je suis ici avec une double casquette, directeur adjoint de l'UMR Prodig, hein, aussi, dans laquelle on compte à peu près 90 doctorants. Alors, je parle sous le contrôle d'Olivier Sevin, qui est ici. L'école doctorale de géographie de Paris, hein, c'est environ 260 doctorants. Voilà, et donc l'écrasante majorité des thèses, hein, en géographie qui sont soutenues en France chaque année. Et avec donc un certain nombre de sous-disciplines de la géographie qui sont représentées, hein, qui vont de la géographie humaine à la géographie physique. Et le fait est que la question de l'insertion professionnelle, bien sûr, elle se pose en géographie pas moins, pas plus que dans les autres disciplines. Évidemment, un certain nombre de nos docteurs vont travailler dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Mais ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que, comme dans d'autres disciplines, vraisemblablement, j'en ai pas l'assurance, c'est que de plus en plus, ont un rêve dans la vie, c'est de ne pas devenir maître de conférence ou chercheur au CNRS ou à l'IRD ou dans d'autres organismes de recherche publics. Donc ils ont d'autres rêves. Voilà. Alors, ces éléments de contexte étant posés, on peut rappeler deux, trois informations générales à propos de la géographie. Il y a de la géographie, comme dans les autres disciplines, dite fondamentale. Il y a des gens qui vont se faire plaisir à travailler sur le concept de territoire ou sur l'histoire de l'épistémologie de la géographie, pourquoi pas. Mais il y a une part considérable de la recherche en géographie qui est que l'on peut qualifier d'appliquée. et donc qui trouvent immédiatement un écho dans les attentes et les préoccupations d'un certain nombre de partenaires professionnels potentiels ou actuels, éventuellement. Et le fait est que, deuxièmement, la plupart des doctorants aujourd'hui qui ont un projet professionnel en dehors de l'université ou de la recherche sont des gens qui, ça aussi c'est une tendance que je remarque depuis quelques années, ne sont pas passés par la case M2 recherche. Ce sont des gens qui de plus en plus passent par la case Master 2 professionnel. Alors même si les Master 2 sont maintenant combinés ou indifférenciés de plus en plus, ils le seront vraisemblablement quasiment tous prochainement, il n'empêche que dans ces Master 2, on a un nombre croissant d'étudiants qui privilégient le passage par le professionnel. Et autre élément important, on constate non seulement l'augmentation du nombre de candidatures en master professionnel au détriment des masters recherche. Certains masters recherche, même excellentissimes et d'excellente réputation, ont du mal à se remplir. Hein, c'est quelque chose de tout à fait donc étonnant depuis quelques années. Mais les bons étudiants, voire les excellents étudiants, vont maintenant vers une filière professionnelle. Et l'appétit venant en mangeant, dans ces masters professionnels, un certain nombre d'entre eux découvrent qu'ils ont non seulement le goût de l'activité professionnelle, mais aussi le goût de la recherche, ce qui les amène à développer des parcours tout à fait intéressants. Alors, la préoccupation pour l'insertion professionnelle, elle existe déjà au niveau du master, et même avant, j'y reviendrai tout à l'heure, elle existe dans les écoles doctorales. Alors, en géographie, nous avons un petit souci avec, on y réfléchit, hein, avec un certain nombre de dispositions, notamment ce chapitre de thèse qui doit s'ajouter à la thèse classique dans lequel le doctorant montre qu'il est capable de présenter, je dirais, les compétences acquises et, disons, dans quelle mesure elles sont en écho avec les attentes des professionnels. Pour la géographie, ça nous pose un petit problème parce que une thèse en géographie, la plupart du temps, ça nécessite, comme en sociologie par exemple, un énorme travail de terrain. Quand on envoie un étudiant au fond du Pérou, éventuellement au Pakistan, en Asie centrale, en Indonésie, avec un travail de terrain qui demande la plupart du temps de développer des compétences linguistiques, une langue étrangère, voire deux, lorsqu'il est obligé de faire un travail en javanais ou en malaisien ou autre. Donc on a là déjà un investissement intellectuel qui est considérable, avec des étudiants qui ont du mal à boucler leur thèse en 3 ans, voire 4 ans, et donc l'ajout de ce chapitre, pour nous, est un vrai défi, mais nous y pensons évidemment. Alors, je terminerai en évoquant, je dirais, parmi tous les doctorants et les docteurs qui soutiennent leur thèse à l'école de géographie de Paris, 3 ou 4 types de situations qui me paraissent tout à fait intéressants et représentatifs des évolutions actuelles. D'abord, on constate que un certain nombre, beaucoup de géographes entrent dans la vie active, en dehors de la recherche et de l'enseignement supérieur, parce qu'ils ont acquis un certain nombre de compétences qui sont des compétences techniques. Il se trouve qu'ils ne sont pas les seuls à les développer, hein, mais elles sont très recherchées par donc, les partenaires professionnels. Ce sont des compétences que l'on commence à développer en cycle licence et master et que l'école doctorale renforce au moyen d'un certain nombre d'ateliers. Je prendrai 2 exemples, un exemple en géographie humaine, un exemple en géographie physique. Hein. Je prends le cas d'un étudiant qui a donc passé un master recherche, hein, le master Géoprisme, qui est coaccrédité par Paris 1 et Paris 7 hein, en 2005, qui a soutenu une thèse à Paris 7 hein, avec une allocation de recherche de l'INRETS, hein, l'Institut National de Recherche sur les Transports, voilà, et avec une thèse hein, sur l'organisation spatiale des flux de marchandises. Et il a fait ensuite un CDD d'1 an à la DATAR. Il est aujourd'hui chargé de recherche à l'IFSTAR, hein, qui est le nouveau nom de l'INRETS. Deuxième exemple, un étudiant qui, lui, a passé un master en géographie physique, voilà, qui a soutenu une thèse en 2012 hein, sur les impacts des changements d'occupation des sols sur le colmatage des barrages en Indonésie, avec des risques accrus d'inondations en aval. Voilà, il est devenu ensuite ingénieur d'études contractuelles en cartographie. Et depuis 2013, hein, il est employé à plein temps hein, d'une entreprise au Laos, hein, donc l'entreprise NTPC, qui a été particulièrement attirée par son parcours puisqu'il avait développé une compétence, un savoir-faire en matière de colmatage des barrages. Hein, il a une très bonne connaissance du risque inondation en aval. Voilà. Ça, c'est le premier cas de figure, hein, des étudiants qui développent une compétence dans la continuité de leur parcours de master à très haut niveau, qui sont capables de tenir un problème par les deux bouts, la théorie, la pratique, hein, avec la dimension application. Tout ça intéresse un grand nombre de partenaires. Et un certain nombre de partenaires sont étonnés de se rendre compte à cette occasion que les géographes savent faire d'autre chose qu'une carte des villes et des fleuves. D'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que un certain nombre de nos partenaires découvrent ça. Mais on en est très content. Deuxième cas de figure sur les trois que je voulais évoquer, on a un nombre croissant de doctorants qui, comme je le disais, ne souhaitent pas entrer dans l'enseignement supérieur et qui le savent d'emblée, qui sont même dans une certaine mesure encouragés par des directeurs de recherche parce que le nombre de postes aujourd'hui, évidemment, n'est pas très abondant, pas très élevé, donc il faut trouver des possibilités ailleurs. Ces jeunes ont une vraie appétence pour la vie active hors enseignement supérieur et recherche et intègrent dans leur recherche un parcours en milieu professionnel qui est très dense. Je prends le cas d'une étudiante qui a soutenu sa thèse l'année dernière sur la sécurisation de la demande de l'entreprise Gazprom. Hein, Gazprom qui, pour le faire court, est en souffrance parce que cette entreprise doit s'adapter au jour le jour aux évolutions un peu erratiques de la législation du marché européen du gaz. Voilà, cette jeune femme donc a soutenu une thèse sans passer par l'enseignement supérieur. Mais pour avoir l'information nécessaire à la soutenance de sa thèse, elle est passée par un certain nombre d'entreprises privées et publiques sur des emplois y compris de très haut niveau à Bruxelles, Munich, Budapest, Moscou et Paris, développant par là même une compétence donc en anglais, en allemand et en russe. Donc cette jeune personne qui a fait sa thèse en co-tutelle avec l'université de Moscou a aujourd'hui acquis dans ses entreprises privées, notamment les entreprises allemandes de lobbying auprès de Bruxelles, mais aussi dans des administrations européennes et françaises, elle a acquis des compétences qui font d'elle aujourd'hui une des rares expertes du marché européen du gaz naturel. Et donc son savoir-être en entreprise et les compétences et les savoir-faire qui sont nécessaires pour entrer en entreprise, tout cela a été construit dès le master 2 professionnel et tout cela a été poursuivi, consolidé dans le master, pendant les 3 années de doctorat. Je terminerai avec 2 dernières remarques. On constate, ça c'est une parenthèse que j'introduis dans le deuxième cas de figure, hein, aussi une augmentation du nombre de personnes qui ont un parcours professionnel, qui sont passées éventuellement par la case Master 2, qui vont dans la vie active et qui reviennent ensuite passer une thèse de doctorat. Parce qu'ils se rendent compte que pour atteindre un certain nombre de postes à responsabilité, c'est le cas notamment dans les institutions internationales, on a un certain nombre de militaires français qui, pour atteindre des postes à très haut niveau, ou des hauts fonctionnaires français, pour atteindre des postes de très haut niveau à l'ONU, etc., ont dans certains cas besoin de passer le doctorat. Donc là, on a des gens qui ont un parcours professionnel déjà plus qu'abondant et très solide, et qui viennent passer une thèse dans un deuxième temps. Je termine avec mon troisième cas de figure. Je voulais rappeler aussi que certaines filières, c'est pas qu'en géographie, c'est dans toutes les disciplines, incluent un volet professionnalisant de façon très précoce. Et une des filières qui présente aujourd'hui en géographie le moins de problèmes pour l'insertion professionnelle des étudiants, c'est la filière aménagement et urbanisme. Un étudiant qui soutient une thèse en aménagement et en urbanisme, c'est un étudiant qui est passé par une licence 3 géographie parcours aménagement, où à peu près un tiers des enseignements sont délivrés par des professionnels, puis par le master 2, ou master 1, master 2 ou un magistère, où la dose d'enseignement professionnel est extrêmement élevée et qui, dans la plupart des cas, va faire une thèse derrière en bourse-cifre. Voilà. Et donc on a des gens qui, de toute façon, lorsqu'ils arrivent en thèse, sont totalement acculturés, puisqu'ils ont fréquenté des professionnels quasiment tous les jours dans leur formation. Donc là, mes collègues qui gèrent cette filière m'ont présenté un certain nombre d'exemples, hein, j'en évoque 2 très rapidement, hein, avec bourse cifre et sans bourse cifre. Hein. Un étudiant qui a fait sa thèse en cifre chez Renault, hein, sur les modes de régulation de la congestion automobile en France, en Brésil et en Chine, hein, thèses qui pourraient être traitées par des doctorants d'autres disciplines, mais auxquelles les géographes apportent un certain regard, voilà, qui aujourd'hui est chargé d'études dans un bureau d'études urbanisme et mobilité, hein, dans une entreprise qui s'appelle Cité. Et un autre étudiant qui n'est pas passé par la bourse CIFRE, hein, qui est une bourse, une thèse financée par l'ISTAR, hein, donc sur les inégalités socio-spatiales en matière d'accidents de la circulation, voilà, et qui aujourd'hui se trouve lui aussi, hein, donc chargé d'études dans un bureau d'études et d'urbanisme et mobilité, hein, dans cette même entreprise. Voilà. Donc je dirais que les écoles doctorales peuvent faire des choses, évidemment, c'est leur mission. De plus en plus, l'école doctorale de géographie est préoccupée et donc se saisit, hein, de cette injonction, hein, et de cette nécessité, hein, faire en sorte que nos docteurs s'intègrent dans la vie active et qu'ils soient employables, mais tout cela s'inscrit en réalité dans un parcours de long terme, hein, et par une acculturation qui prend plusieurs années. Merci de votre attention.
Bien, merci Yann, et merci d'avoir insisté sur le fait que la thèse est aussi ouverte pour ceux qui veulent la faire, le parcours tout au long de la vie, comme nous l'appelons chez nous. Et je vais passer la parole à Philippe Naquet, qui est professeur à l'université, pardon, à Aix-Marseille Université, qui est donc responsable d'une équipe au Centre d'immunologie de Marseille Mini, pardon, et directeur de l'école doctorale des sciences de la vie et de la santé, ED62, et qui est l'une des plus anciennes de France et peut-être aussi l'une des plus importantes puisqu'il y a environ 700 doctorants.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais, avant de commencer, souligner que ce que vient de dire mon collègue de géographe, on en rêve un petit peu en biologie, c'est-à-dire cette professionnalisation des parcours dans la tête des étudiants devrait pouvoir être préparé en amont. Ça n'est pas tout à fait le cas chez nous. Et du coup, je vais vous présenter en quelques mots un diaporama qu'on a préparé avec Serge Rossi qui m'aide un petit peu à organiser tout ce qui est insertion professionnelle dans l'école doctorale. Notre école doctorale est une école, on va dire, un peu caricaturale de la biologie, sans doute trop grosse, avec un flux de docteurs assez important. Et c'est une école doctorale qui reflète un petit peu l'évolution de la biologie dans les 20 dernières années, qui a d'ailleurs été soulignée par plusieurs articles aux États-Unis. C'est-à-dire une explosion complète de la demande, une explosion des moyens de financement qui sont venus nourrir cette formation-là. Et du coup, quelques années plus tard, une explosion de doctorants et de docteurs qui se posent des questions. Et d'une certaine façon, le déficit de professionnalisation en amont est une question que nous nous posons et à laquelle, pour l'instant, nous n'avons pas vraiment de réponse claire. J'ajouterai à ça que, peut-être est-ce une particularité du bassin méditerranéen, nous avons assez peu de thèses financées par le secteur privé, environ 7%, et 15% de nos docteurs vont s'insérer dans le milieu de l'entreprise. Beaucoup, évidemment, sont des salariés, mais beaucoup sont des gens qui ont une appétence pour la recherche forte et qui, 5 ans après leur thèse, sont encore dans de la recherche académique, soit sur des contrats définitifs, soit sur des CDD, ce qui nous inquiète énormément et ce qui les inquiète aussi tout à fait légitimement. Donc il y a une problématique à laquelle nous devons tenter de répondre et évidemment la situation actuelle n'est pas totalement satisfaisante et une école doctorale a des moyens un petit peu limités, mais on essaie de faire avec. Alors évidemment, nous avons mis en place des procédures, nous imposons des heures de formation, nous sommes évidemment en synergie complète avec toutes les formations que le collège doctoral met en place, les doctorales, les journées ceci, les journées cela, nous faisons travailler des associations de doctorants, il y a au niveau du collège toute une activité sur la mise en place de systèmes d'auto-organisation par les doctorants, donc des démarches sont faites. Mais un des constats qu'on a fait malheureusement assez rapidement, c'est que nous ne touchions qu'un très petit nombre de docteurs in fine, trop petit pour que cela soit satisfaisant. Donc les problèmes, c'était d'atteindre les docteurs, d'impliquer un petit peu les laboratoires, si possible, et de toucher un secteur industriel qui, pour l'instant, il faut le reconnaître, au moins vu de Marseille, ne nous aide pas énormément. Alors, ce qu'on a commencé à faire, et c'est évidemment un processus qui est en cours, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose, et ça a été dit par mes prédécesseurs, quelque chose qui soit répété au cours de leur formation doctorale, c'est-à-dire de les exposer à plusieurs moments de leur formation, à des processus où un questionnement se met en place. Et évidemment, On ne veut pas faire ça de manière dissociée avec le laboratoire qui est leur lieu de vie. Et même s'il faut de temps en temps les sortir du labo, si on leur demande simplement d'en sortir, ils n'en sortent pas. Et donc on a décidé d'aller au cœur des laboratoires pour leur proposer des interventions plus directes, et ce de manière un petit peu plus systématique. Évidemment, on en profite dans ce type d'action pour amener au cœur des laboratoires des entreprises qui n'y viennent pas naturellement, qui parfois souhaitent venir, mais qui n'y viennent pas si on ne les appelle pas. Et donc les amener au cours de ces journées à nous aider à réfléchir aux formations qui manquent de manière un petit peu spécialisée. Alors du coup, ce que l'on a essayé de faire, c'est aussi d'ancrer cette stratégie dans une stratégie de réflexion du doctorant, aidée en cela par les comités de suivi de thèse, et là aussi c'est un combat, d'amener les responsables de comités de suivi de thèse à participer au projet professionnalisant du doctorant, et évidemment se servir de ses correspondants dans les labos pour obliger à la fois les encadrants, les doctorants et les gens que nous allons inviter ce jour-là à avoir une réflexion commune, la plus spécialisante possible, évidemment. Alors évidemment, ceci nécessite d'avoir des cycles répétés. Nous sommes obligés d'intervenir de manière ponctuelle dans les laboratoires et évidemment de les amener à s'approprier les outils qui sont mis en place, comme MyDocPro ou d'autres, sur ces référentiels de compétences auxquels sinon ils sont exposés de manière trop marginale. Et évidemment, tout ceci les amène à réfléchir à leur carrière alternative. Donc, en gros, en pratique, qu'est-ce que nous avons fait, par exemple, cette année? Nous avons fait 3 actions thématisées, qui sont thématisées à la fois dans des champs disciplinaires de la biologie, mais qui sont aussi intégrées dans les sites de recherche. Nous avons fait dans le secteur des neurosciences, en biologie plus générale, dans le secteur santé, et avec, à chaque fois, des invitations très dédiées de professionnels et de professionnels de tous bords, hein, puisqu'il y a des anciens docteurs, des responsables de formation, des professionnels hors recherche, des dirigeants de start-up, etc., quand on en trouve, des formateurs, toute une série d'entreprises qui ont bien voulu jouer le jeu, et on les délocalise une journée dans le labo, et ils sont en contact avec une quarantaine à une cinquantaine de doctorants à chaque fois, qui sont évidemment entourés de personnes qui sont dans leur champ de compétences. Alors, donc, l'objectif n'est pas de vouloir répondre à toutes les formations complémentaires, mais il nous est paru absolument indispensable d'avoir en un lieu, en un moment, des gens qui sont capables de répondre à des questions de doctorants qui se demandent ce qu'ils vont faire après leur thèse dans leur champ de compétences. Et l'expérience est en cours, donc on n'a pas encore un retour considérable, mais les premiers retours nous montrent bien que c'est un souci, c'est un manque qu'il fallait combler et qui nécessite de maintenir le laboratoire au cœur de ses actions d'intégration professionnelle. La tendance étant évidemment naturellement que le directeur de thèse utilise son doctorant et puis après s'en sépare. Voilà, donc évidemment, chacune de ces journées nous permettent d'aborder chacun de ces thèmes de manière extrêmement spécialisante, avec des ateliers les plus efficaces possibles. On n'est pas encore tout à fait dans la simulation d'entretien d'embauche, mais ce que l'on aimerait à terme, c'est pouvoir permettre, dans des secteurs disciplinaires bien précis, d'apporter carrément des offres d'emploi potentielles pour ces doctorants. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les entreprises qui ont répondu à nos attentes ont été souvent un peu surprises de se retrouver dans le bouillon et non pas trop délocalisées. Et les doctorants qui y ont participé ont apprécié que l'on vienne les voir sur leur lieu de travail. Alors, je ne sais pas si vous avez des exceptions dans ce domaine-là, mais il nous est apparu que c'était une solution. Alors, un des points, et c'est le dernier, je m'arrêterai là, un des points qui apparaît à chaque fois, c'est que au fond, on n'est pas encore parfaitement capable de définir toutes les formations complémentaires qui permettraient d'augmenter la professionnalisation de nos doctorants. Et là, je rejoins totalement ce que disait mon collègue géographe. C'est une réflexion qui doit démarrer avant la thèse et qui, pour l'instant, est relativement étrangère, en tout cas au master de recherche que je connais, et qui, à mon avis, me paraît être un des enjeux du futur. Voilà, merci.
Bien, merci Philippe. Donc nous avons eu un panorama de ce qui existe, à mon avis, en France dans le domaine des écoles doctorales et au-delà. Donc je vais maintenant passer la parole à la salle. S'il y a des questions, il y en aura sûrement. Je vous demanderai de vous présenter brièvement.
Oui, Dominique Méry, directeur de l'école doctorale informatique, automatique, électronique, électrotechnique et mathématiques de Lorraine. Donc j'ai vu mon président tout à l'heure. Non, je voulais te demander, parce que tout à l'heure il y a eu une allusion en fait à la relation doctorat-master. Pour moi elle est quand même assez difficile parce que les études sont quand même... avant il y avait le DEA qui était un genre de pré-expérience. Maintenant c'est moins sûr. Comment vous arrivez en fait à avoir des... Je parle au directeur d'école doctorale, des relations avec est-ce qu'il y a des journées spéciales avec les personnes des masters? Comment vous faites le lien entre le master, le MLD finalement? C'est ma question, quoi.
Qui veut répondre? C'est l'une des questions qui est aussi posée à l'Europe. C'est l'un des points sur lequel le groupe de suivi du processus de Bologne insiste.
Nous, on n'a pas de réponse définitive à cela, mais on fait deux choses. Premièrement, lors de ces journées des doctorants, nous invitons les masters, déjà. Donc déjà, ils sont exposés aux questions que se posent les gens qui ont 2-3 ans de plus qu'eux. Et de fait, en cours de master, ils sont...
Mais plus près du micro.
Il faut le confronter à la question du doctorat. Deuxièmement, au niveau des masters, nous sommes en train de mener une réflexion. Ça a d'ailleurs été instigé par la naissance de ces parcours de type CMU. Et évidemment, on est en train de réfléchir à la mise en place de formations qui s'inspirent ou qui sont typiquement des CMU et dans lesquelles la formation professionnalisante est prise en compte, non pas dès le master, mais dès la licence. Alors, on n'a peut-être pas encore trouvé les bons formats, on y réfléchit, mais une chose est certaine, c'est qu'on est en train de faire évoluer les masters recherche vers ce genre de formation mixte.
Oui, bonjour, Samuel Botani, je suis directeur du Centre de formation des doctorants à l'insertion professionnelle, pour la COMUE, qui est une structure de la COMUE Université Sorbonne-Paris-Cité, travaillant pour les doctorants et doctorantes et les écoles doctorales à développer des formations à vocation professionnelle. Et je voudrais un peu interpeller sur l'usage qui a été repris souvent ici du terme insertion professionnelle pour des docteurs et des doctorants. En effet, en même temps de l'usage de ce terme insertion professionnelle, on parle du doctorat comme une véritable expérience professionnelle. Les doctorants étant des jeunes chercheurs juniors, en formation encore, mais c'est une expérience professionnelle. Donc ce terme insertion professionnelle, qui pourtant fait partie de notre acronyme CFD-IP, le IP, est-il approprié, à votre point de vue, pour parler de la poursuite de carrière des docteurs jeunes diplômés? Merci.
Merci Samuel d'avoir posé la question. Effectivement, dans mon intervention, je plaide coupable, j'ai utilisé le terme insertion professionnelle tout en précisant tout de suite après que le doctorat, le parcours doctoral est effectivement considéré comme un premier emploi pour ceux qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle. Mais parmi les doctorants, il y en a effectivement de plus en plus qui reviennent faire leur thèse après une expérience professionnelle significative. Donc je suis tout à fait d'accord et j'accepte la remarque. Je ne sais pas si les collègues voudraient intervenir là-dessus, mais c'est tout à fait,
Oui, nous parlons à Sorbonne Université, nous parlons aussi le terme qui est utilisé d'ailleurs dans le rapport sur l'emploi scientifique, qui est le devenir professionnel des doctorants.
Simone Cassette pour l'UGIC de CGT. On pense qu'il faudrait plutôt parler d'insertion dans l'emploi stable. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. On retrouve beaucoup les doctorants dans de très nombreuses années, dans de très nombreux CDD, pendant de plus en plus longtemps. Et ils sont considérés comme ayant une très bonne expérience professionnelle, mais presque encore comme des étudiants qui travaillent sur les projets, malheureusement.
Quelqu'un veut répondre?
Oui, enfin, je suis forcément sensible à ce point. Par exemple, dans notre secteur où il y a donc beaucoup de doctorants qui sont encore de docteurs qui sont encore en CDD 5 ans après leur thèse, la réponse est très claire, ils s'expatrient. Quand ils ne trouvent pas de boulot en recherche en France, ils quittent la France. Et ils trouvent du boulot à l'étranger. C'est une tendance qui commence à se dessiner de manière très nette dans notre secteur. On peut considérer ça bien ou pas bien, c'est un fait. Et je n'ai pas de réponse locale, malheureusement.
Moi, peut-être je peux essayer de répondre dans mon cas, parce que nous, on a déjà eu deux jeunes docteurs. On les a embauchés en CDI. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est MEDEF qui a dit qu'il y avait 20 000 entreprises qui avaient déclaré CIR. Et nous, en étant une société de recherche, bien évidemment, on utilise le CIR. Et ça, c'est un dispositif très intéressant pour qu'on puisse embaucher exactement en CDI les docteurs. C'est ce qu'on a fait aussi. Et je crois qu'il doit y avoir de plus en plus de sociétés qui, peut-être, qui vont suivre cette voie.
Oui, je voudrais aussi, Yves Blache, donc directeur de l'école doctorale Mer et Sciences à Toulon. Je voudrais revenir également sur cette notion d'insertion professionnelle, parce qu'on parle beaucoup d'insertion professionnelle après la thèse, mais finalement, personne ne... Vous l'avez un peu évoqué, mais personne n'emploie le terme de post-doc. Or, on est effectivement dans une culture actuelle des post-docs, où c'est un peu la course aux post-docs pour nos doctorants. Et on voit beaucoup de dossiers de personnes avec des compétences qui arrivent avec 1, 2, 3, 4, 5 post-docs pour postuler sur finalement des emplois qui sont normalement pour des jeunes docteurs, à l'issue d'un doctorat. Donc les jeunes docteurs sont pénalisés dans leur recherche d'emploi par cette culture post-doc finalement qui est devenue un peu commune. Et alors il y a quelques aides, effectivement, ce qu'on appelle l'aide au retour, mais qui sont quand même marginales. Et on est un peu dans un cercle vicieux, en fait. Hein. Donc cette notion d'insertion professionnelle, pour reprendre l'intervention de notre collègue tout à l'heure, est un peu quand même un peu viciée, me semble-t-il. Hein. Il faudrait quand même, effectivement, savoir qu'est-ce qu'on appelle insertion professionnelle. Comme le disait madame, insertion professionnelle stable ou un contrat à durée déterminée, un post-doc à l'issue du doctorat. Ce qui est tout à fait différent quand même.
Alors, l'insertion professionnelle stable, enfin, les chiffres et les études montrent bien qu'elle est problématique pour les docteurs. Beaucoup pour les docteurs en sciences humaines et sociales qui ont des profils qui souvent paraissent moins évidents pour les DRH, hein, donc dans de très nombreux secteurs. Pour les docteurs aussi en général, peut-être parce qu'on peut aussi avoir des gens qui sont tout à fait employables et tout à fait performants sortant d'une école d'ingénieur, par exemple, ou de commerce, et qui ne sont pas passés par la case doctorat. Et il y a aussi un paradoxe hein, qu'on peut mentionner. C'est que nos doctorants, même ceux qui ont une mission complémentaire d'enseignement et de recherche, qui sont donc moniteurs dans une université, sont eux-mêmes très mal préparés finalement au métier de maître de conférence, parce que aujourd'hui, c'est quoi être enseignant-chercheur? C'est 50% recherche, 50% enseignement et 50% administration et travaux divers et variés, pour lesquels nos jeunes docteurs ne sont absolument pas préparés. Donc il y a là aussi un déficit qui est criant. Voilà. Et j'avais une deuxième remarque. Évidemment, aujourd'hui, pour entrer notamment dans l'enseignement supérieur et la recherche, on voit bien qu'on est en situation malthusienne, on est à l'étiage. Il y a de moins en moins de postes. Sur le moindre poste de maître de conférence, vous avez entre 50 et 100 candidats en géographie. J'imagine que c'est bien pire dans d'autres disciplines, le droit, l'économie, les sciences exactes, expérimentales. Donc il est peut-être aussi de la responsabilité des directeurs de thèse potentiels d'éveiller l'attention des doctorants là-dessus le plus tôt possible et de les inciter peut-être à donc regarder ce qui se passe ailleurs, d'autant plus qu'ils développent des compétences qui sont souhaitées en dehors de l'enseignement supérieur et la recherche.
Oui, enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu cet article qui avait été publié par Bruce Alberts et Varmus dans PNAS, dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, oui, qui disait clairement qu'aux États-Unis, où ils ont vécu un boom de la recherche biomédicale il y a une vingtaine d'années, maintenant ils prennent des positions très fermes pour réduire le nombre de docteurs. C'est-à-dire qu'ils sont allés pratiquement, alors il y a plusieurs raisons à cela, ils sont en train de se dire on en a formé trop, peut-être que nous devons réguler ces choses-là. Alors bon, pour que les États-Unis disent ça, c'est que quand même, en France on n'en est pas encore là je pense, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont en tête de réguler des flux de thèses. à l'entrée.
Oui, bonjour, Monique Martinez, École des docteurs de Toulouse. Alors moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur Naquet, sur le fait qu'effectivement, nous œuvrons à tous les niveaux, au niveau des ED, au niveau des collèges doctoraux, au niveau des établissements, pour diversifier justement les débouchés pour nos docteurs, les docteurs que nous formons. Mais nous sommes à un moment de changement un peu copernicien par rapport à justement à ce diplôme de doctorat, hein, à cause aussi à cause du tarissement de l'emploi public. Et donc je me demande, est-ce que nous œuvrons assez pour sensibiliser justement les encadrants à cette diversification-là ? Et est-ce qu'on met en place assez de dispositifs justement pour les alerter sur cette difficulté après de l'emploi ? C'est un peu ce que vous disiez.
La réponse était dans votre question. En fait, donc j'abonde dans votre sens. Évidemment, nous ne sommes pas formés, et donc quand on devient professeur, quand on devient maître de conf, on n'a pas été formé à le devenir. En réalité, pas vraiment. Et quand on devient professeur, on n'a pas été formé à devenir professeur. Disons que il y a des tas d'aspects. Et donc, ou directeur de recherche, et donc directeur de recherche doctorale. Donc il y a des tas d'aspects qui peuvent échapper, notamment dans ce contexte général. Et je dirais, quand on devient directeur de recherche, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on dirige des recherches. Voilà, on a le nez dans le guidon, peut-être, assez souvent, et on oublie ce contexte général. Maintenant, la solution, elle est très difficile à trouver. Quel est le nombre optimal de thèses au-delà duquel il ne faut pas aller ? Pour être sûr que nos doctorants vont passer la rampe et trouver un emploi, ça c'est très compliqué. Je suppose que personne n'a de réponse définitive là-dessus. Mais en tout cas, on n'est pas sensibilisé à ça, je ne crois pas.
Bonjour, Marie-Christine Bayetto. Moi, je suis directrice adjointe de la recherche à l'INSA de Lyon, où nous comptons environ 650 doctorants et nous sommes essentiellement en sciences dures, pour reprendre l'appellation. Je voudrais simplement apporter un petit peu un témoignage légèrement différent de ce que je viens d'entendre. À l'INSA, nos doctorants, donc c'est des doctorants qui viennent de toutes origines, à l'international, français, mais également avec des diplômes variés, pas que des diplômes uniquement INSA, mais aussi universitaires. Donc nos doctorants, la durée moyenne de thèse, c'est à peu près 40 mois. Nos doctorants trouvent du travail dans les 2 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. Nous avons à peu près 25% de nos docteurs qui se placent dans les domaines de l'académie, donc recherche universitaire, CNRS, éducation nationale, INRIA. Donc ces docteurs-là, passent forcément par une case post-doc, donc 1 ou 2 post-doc d'une durée entre 1 et 3 ans, mais au bout de 3 ans, grosso modo, ils ont un emploi stable. Pour les autres qui se dirigent directement vers le privé, le temps pour trouver un emploi, c'est 2 mois. Et ils trouvent tous du travail. Il va y avoir un pourcentage de... Alors, ceux qui ne trouvent pas de travail, effectivement, c'est 2-3% pour des raisons personnelles ou autres. Voilà.
Oui, bon. Bien.
Ne sont pas que ingénieurs. Nous avons des doctorants qui viennent de partout, qui ont des diplômes universitaires et qui sont également ingénieurs. Mais nos doctorants sont plus de la moitié non-ingénieurs.
C'est pas très différent de ce que nous avons à l'UPMC. Mais bon, je vais prendre une dernière question parce que je voudrais après demander à chacun des membres, des intervenants sur la table ronde de dire un mot de conclusion. Donc une dernière question.
Non, mais j'ai 2 demandes d'intervention, une ici et puis une autre à l'autre bout si vous permettez.
Bon, alors on va en prendre 2.
Bonjour, Thomas Coudreau, Collège des écoles doctorales de Sorbonne-Paris-Cité. J'avais donc 2 questions. Il y a déjà une réponse partielle qui a été donnée sur l'idée de non seulement inciter les doctorants à s'ouvrir vers d'autres champs que le monde académique, mais aussi réguler les flux des docteurs, des doctorants eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des réflexions quelque part sur ce sujet ? Je ne sais pas. Puis avant ça, je voudrais juste compléter ce qui a été dit sur l'article dans PNAS, parce qu'il me semble très très intéressant cet article. Il dit aussi qu'il faut limiter le nombre de contrats de financement de thèse sur projet pour plutôt donner les financements de thèse à des structures qu'on pourrait assimiler à des écoles doctorales, très probablement. Je trouve ça c'est intéressant, venir des États-Unis, et ça nous donne aussi en France un très bel exemple de ce qu'on sait faire quand même. Et il dit aussi, mais là c'est probablement plus lié à la recherche biomédicale, qu'il faut augmenter le nombre de personnels d'appui à la recherche. Ça, je laisserai la salle juger de l'opportunité de ça.
pour réagir sur la dernière remarque, Thomas, la directrice de l'école doctorale, la Graduate School de MIT, vient régulièrement en Europe, aux réunions européennes, pour voir comment ça se passe en Europe, parce qu'il se pose des questions, en particulier sur la durée des thèses et les taux de complétion. Il faut savoir qu'au bout de 7 ans, vous n'avez pas la moitié des thèses qui ont été terminées, avec des taux de complétion entre 40 et 70%.
Oui, bonjour, Patrice Actin, je suis directeur scientifique à SNCF. J'avais des responsabilités avant d'arriver à la SNCF, en particulier sur le sujet des thèses, dans un organisme public, donc j'avais vu aussi la partie de l'autre côté, académique, je dirais, de la formation doctorale. En fait, ce que je voulais dire ici, c'est que dans les entreprises, il n'est pas évident non plus, quand on emploie des doctorants, de les recruter, d'assurer leur devenir, et donc ça se travaille. Il y a un exercice qui doit être fait pendant la durée de la thèse et même au démarrage de la thèse pour qu'il y ait un lien fort entre la partie RH et le doctorant. Évidemment, il y a l'école doctorale qui est le partenaire côté académique et le laboratoire et le directeur de thèse. Mais je me venais en tête que finalement, pour progresser, nous, en interne, et on recrute aujourd'hui à la SNCF un tiers de nos doctorants, il a fallu mettre en place un certain nombre de processus et une mécanique un petit peu pour progresser dans l'intrication entre les parcours, entre la gestion des compétences et l'envie du doctorant de se projeter dans l'entreprise aussi, de lui faire connaître d'autres endroits de l'entreprise, etc. Quand on est en contrat doctoral à l'université, il me semble que cet exercice avec le RH de l'université n'est pas fait. En tout cas, n'est pas fait du tout. Pourtant, on dit qu'on est en insertion professionnelle, on dit qu'on est en première expérience. En réalité, je pense que les services RH des universités n'ont pas été missionnés peut-être pour ça. Ils sont intermédiés peut-être par les écoles doctorales sur certains sujets, dans le suivi en particulier. Mais je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir aussi par rapport aux services RH dans l'université.
Merci pour cette suggestion. Bien, je vais maintenant demander aux quatre intervenants s'ils peuvent nous dire en conclusion une ou deux recommandations ou propositions pour améliorer dans un avenir proche l'adaptation de nos docteurs à l'entreprise, c'est-à-dire leur devenir professionnel.
Alors, Jean-Dominique, tu dis une ou deux. J'aurais trois propositions d'idées, jamais deux sans trois. Oui. Alors la première, mais très rapidement, on parle beaucoup des doctorants, mais il ne faut pas oublier les encadrants scientifiques, les encadrants des doctorants. Et donc il est essentiel de réfléchir et de mettre en place des dispositifs, et ceux de manière plutôt généralisée, des dispositifs d'accompagnement des encadrants scientifiques pour qu'ils puissent être de meilleurs encadrants et offrir donc de meilleures opportunités de formation aux doctorants afin de les aider à mieux donc développer leur devenir professionnel. Ça, c'est la première suggestion. La deuxième, si je peux me permettre, c'est de toujours continuer à développer des actions là où elles existent et initier de nouvelles actions là où elles n'existent pas encore, à des échelles différentes, sur le plan local, au niveau des écoles doctorales, parce qu'on a une importante marge de manœuvre, au niveau des établissements et au niveau des communes aujourd'hui. Donc ne pas se gêner, continuer à développer. Et une suggestion sur le plan national, puisque nous sommes en train de discuter la nouvelle proposition de texte pour le nouvel arrêté. Nous avons besoin d'un cadre. Il faut que ce cadre-là soit suffisamment souple pour qu'il nous laisse une marge de manœuvre suffisamment importante afin que les établissements, les communes et les écoles doctorales puissent continuer à mettre en place des initiatives innovantes qui vont dans le sens dont on parle aujourd'hui. Merci.
Merci. Enfin, ma conclusion, c'est que j'ai pas tellement de conclusions. Je vous prie de m'en excuser. Parce que les disciplines ne se ressemblent pas, les contraintes ne sont pas les mêmes. Simplement, je reprendrai à mon compte ce qui a été dit par monsieur de la SNCF. Il y a des gens dans les universités qui sont compétents. Il y a des gens qui travaillent à l'orientation. Il y a des gens qui travaillent dans les RH. Il y a des gens qui travaillent dans l'encadrement de la recherche. et que les interactions entre ces gens compétents ne sont peut-être pas suffisamment développées, mais je vous dis ça sans parachute, peut-être que ça existe dans d'autres universités. Voilà. Et puis l'autre chose que je remarque, mais je ne sais pas si c'est une recommandation applicable, c'est que plus on tombe dans le professionnalisant jeune, plus on tombe dans la marmite jeune, dans son cursus, plus ça facilite les choses derrière, parce que le doctorant va très précocement lire son travail de recherche en relation avec donc des besoins, des attentes de certains secteurs d'activité en dehors de l'enseignement supérieur.
Alors moi, je veux plutôt parler pour les doctorants qui choisissent le monde privé, bien évidemment. Pour moi, je crois que quelqu'un d'autre qui avait dit ce matin, c'était vivier de compétences. Alors, on doit aussi penser le côté des entreprises. Et ce qui nous intéresse, peut-être, ce n'est pas vraiment le sujet de la thèse, mais c'est des compétences clés des doctorants. Et ça, c'est vraiment un point très, très... Enfin, c'est comme ça qu'on choisit les doctorants. Et je voudrais aussi dire, peut-être, on devrait faire plus de rencontres des universités et des entreprises pour vraiment comprendre nos besoins.
Oui, alors très rapidement, la dernière phrase me convient tout à fait, c'est-à-dire je pense que l'entreprise et le labo doivent être beaucoup plus connectés lorsque des doctorants sont en jeu. Deuxième point qui me paraît critique, c'est quand doit-on commencer une formation entre guillemets professionnalisante avant la thèse, quand, sous quelle forme? Je crois que ça c'est un débat que nous n'avons pas assez mené. Et il faut qu'on réfléchisse aussi à évaluer qualitativement si le doctorat ne devient pas un handicap dans un certain nombre de cas, et c'est malheureusement ce que nous vivons parfois. Certains docteurs ne cachent leur diplôme lors de l'embauche. Il faut qu'on soit objectif sur ces choses-là, et donc nous essayons d'y réfléchir nous, de notre côté. Voilà.
Bien, mais je vais quand même dire un mot de conclusion. Alors, j'espère que cette table ronde vous a montré que, en fait, en matière de formation innovante du doctorat, la France n'est pas à la traîne. Je pense que nous avons même été à l'origine de beaucoup d'initiatives en Europe. Ça, c'est peut-être pas assez. Que le taux, comme nous l'a rappelé notre collègue de l'INSA, le taux d'insertion des docteurs est peut-être meilleur que ce que disent certaines enquêtes nationales. Et puis, je terminerai surtout par une demande. Ne négligez pas l'Europe. Il n'y a pas assez de gens, de Français, qui viennent dans les réseaux européens au niveau du doctorat. Et vous y apprendrez énormément de choses, en particulier le fait que nous n'avons pas à avoir honte de notre système. Nos écoles doctorales sont enviées à l'étranger. Je suis régulièrement invité en Europe de l'Est, mais aussi en Europe centrale, par exemple à Vienne, pour essayer d'expliquer comment fonctionnent les écoles doctorales. Donc nous avons des atouts et que l'une des manières de les mettre en évidence, c'est de s'impliquer dans les instances européennes.